Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et de retour avec Jean-Pierre Foulthier, évidemment, comme chaque semaine. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
La semaine dernière, Guy Royer, on s'en souvient, était à vos côtés pour nous présenter cette fameuse République tchèque qui assure au cours du second semestre 2022 la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Mais il me semble que, comme à l'accoutumée, c'est de la culture de ce petit pays d'Europe centrale dont vous allez nous parler aujourd'hui.
J'ai effectivement pris l'habitude depuis quelques saisons de consacrer quelques-unes de ces chroniques européennes à ce que j'ai appelé, cela était le cas pour la Finlande, pour la Croatie, pour le Portugal et d'autres, les paysages culturels du pays ainsi mis à l'honneur. Ce n'est pas pour rabaisser ce que je viens de citer, mais il faut se rendre à l'évidence, la Tchéquie, ce petit pays d'une dizaine de millions d'habitants, mais qui compte plus de 800 musées et d'une richesse culturelle confondante. Et je me demande si les trois chroniques que je compte lui consacrer suffiront à en faire le tour. Tenez, je vous parlais il y a peu encore de patrimoine, eh bien sachez que c'est le pays qui compte le nombre de châteaux par habitant le plus élevé au monde. Et la ville de Prague, la cinquième ville la plus visitée d'Europe, et ses nombreux ponts qui enjambent la Vltava est incontestablement une des plus belles villes d'Europe.
Et donc au programme tout de suite, le tour d'horizon des 800 musées de la République tchèque. On commence par le premier donc, c'est parti.
Merci.
Non, ça vous êtes pas. Bon, alors parlons plutôt de ce paradoxe d'un petit peuple et d'une aussi grande culture.
Donc c'est effectivement par son histoire et sa géographie même. Ce pays est au centre géographique de l'Europe. Et s'il a été historiquement tiraillé entre diverses influences, entre catholicisme et protestantisme, entre monde slave et monde occidental, sous la longue tutelle austro-hongroise, c'est bien vers l'Occident et vers sa culture qu'il s'est tourné. J'ai trouvé une formule qui m'a semblé fort juste. Quand un Tchèque se regarde dans un miroir, il s'y voit homme d'abord, Tchèque ensuite, slave presque jamais, européen toujours. C'est aussi ce que soulignait le grand écrivain tchèque Milan Kundera lorsqu'il écrivait en 1983 dans un texte intitulé « L'Occident kidnappé », je cite, « Le mot Europe ne représente pas pour elle, il parle alors de la Tchécoslovaquie mais aussi de la Hongrie et de la Pologne, toutes les trois intégrées de force au bloc communiste d'après-guerre, un phénomène géographique mais une notion spirituelle, synonyme du mot Occident. Et si la langue tchèque appartient effectivement au groupe des langues slaves de l'Ouest, elle a toujours adopté l'alphabet latin et non cyrillique, ce qui n'en fait pas, au dire des connaisseurs, une langue facile à apprendre. Il y manque parfois un peu de voyelles et son système d'accent est complexe. Elle est actuellement une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si c'est un Tchèque qui est appelé le père de la pédagogie moderne. Il s'agit de Comenius, ce théologien protestant, mais surtout pédagogue du XVIIe siècle, dont l'Union européenne a donné le nom, dans les années 2000, à l'un des programmes d'échanges scolaires européens, qui sera ensuite rattaché à Erasmus+.
Et une langue qui est celle, je suppose, des écrivains tchèques ?
Pas forcément, Sébastien. Du fait justement des brassages et des aléas historiques qu'ont subi les deux principales provinces de Bohême et de Moravie au cours des siècles, la langue tchèque, si elle est la plus utilisée par les écrivains de ces territoires, n'est pas la seule. Des auteurs majeurs, au premier rang desquels Franz Kafka, l'auteur de La Métamorphose et du Procès. Ce romancier de l'étrange et du cauchemardesque qui était né et avait passé toute sa jeunesse dans une famille juive de Prague sous la domination austro-hongroise, écrira toute son œuvre en allemand, sa langue natale, qui était celle, à l'époque, d'une partie de la population pragoise, même s'il parlait couramment le tchèque. C'est le cas également d'un des grands poètes de langue allemande du début du XXe siècle, Rainer Maria Rilke. Un des grands combats de plusieurs écrivains dits « les éveilleurs » aura d'ailleurs été vers les années 1850 de se détacher de l'influence allemande comme le feront au tournant du XXe siècle les écrivains dont je vais vous parler.
Je me serais fait un plaisir de prononcer le nom du premier mais je vais quand même vous le laisser pour le plaisir.
Ce n'est pas le pire. Donc, je commencerai par Jaroslav Hašek, très célèbre dans son pays et connu bien au-delà, comme l'est le personnage qu'il a créé dans les années 1920, le brave soldat Schweik, héros ou plutôt anti-héros d'un roman satirique qui raconte les pérégrinations absurdes de cet homme ordinaire que l'auteur lui-même présente ainsi. Dans les rues de Prague, vous pouvez rencontrer aujourd'hui un homme en débraillé qui ignore quel rôle important il a joué dans l'histoire de cette grande époque nouvelle, c'est-à-dire, c'est moi qui rajoute, pendant la Grande Guerre sous la domination austro-hongroise. Les Tchèques ont fait de ce personnage de Candide une véritable figure nationale.
Et est-ce qu'on peut citer un autre auteur ?
Vous savez ce qu'est un robot, Sébastien ?
Je suppose, j'espère.
Alors, ce que vous savez peut-être moins, c'est que le mot « robot » a été inventé par un écrivain tchèque de science-fiction, un des premiers de la littérature européenne du genre, Karel Čapek, dont les œuvres, comme celle de Hašek, d'ailleurs, sont empreintes d'une ironie assez noire. Il n'hésite pas, en effet, à tourner en dérision l'intolérance religieuse ou le national-socialisme dont son pays sera victime en 1938, c'est l'année de la mort de Čapek, après que les accords tristement célèbres de Munich ont donné à Hitler la possibilité de conquérir tout le pays sans tirer un coup de feu. Čapek a eu à ce propos cette phrase terrible « Les Tchèques n'ont pas été vendus, ils ont été donnés pour rien ».
J'ai quand même l'impression que cette culture a été marquée par les dominations successives que le pays va subir.
Tout à fait. Pour ne retenir que les deux derniers siècles, les Tchèques ont été soumis, je le rappelle, à l'Empire austro-hongrois, puis au Reich allemand et enfin à l'Union soviétique après le coup de Prague de 1948 dont Guy parlait la semaine dernière, donc qui a vu les communistes y prendre brutalement le pouvoir. Ce sera de nouveau le cas 20 ans plus tard avec la reprise en main musclée qui a mis fin au printemps de Prague. Je vous en reparlerai si vous le voulez bien la semaine prochaine.
Ah, c'est déjà l'heure. Je n'avais pas vu le temps filer. Bon, ben, je vous dis donc à la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges-Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.